franceinter.fr.
Ça se reconnaît en écologie.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
CO2.
Ça a des lunettes, ça a une barbe, ça a un cavouet.
En amour.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Denis Chessou.
J'ai une recette du pays.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie modestement et qui prend le temps de ne pas aller trop vite. Avec Sophie Moreno et Patrick Henry, aujourd'hui à la technique et assisté de Stéphane Combe, c'est Valérie Ayestarai du Pays Basque qui réalise l'émission. Allez, une petite humeur sur les soldes. Et oui, on solde, et pas uniquement les blue jeans, les sous-vêtements. Non, 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 tout doit disparaître. Dépêchez-vous de regarder le monde en son état actuel. Prenez des photos, car dans quelques années, vous n'allez pas le reconnaître. Et oui, parce que tout s'accélère, les freins ont lâché. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est pas ça. On apprend, en effet, grâce donc à Nature et le Muséum d'Histoire Naturelle, en liaison avec le CNRS de Montpellier et 7 pays européens, que la faune est en train de s'adapter au réchauffement climatique. Oui, mais avec un certain retard par rapport au phénomène. Un degré de plus depuis 20 ans en Europe, ça décale les températures à peu près de 250 km vers le nord. Et les oiseaux, les papillons rament sévèrement pour suivre les températures et remonter donc vers ce nord. Et donc ce léger retard à l'allumage, une petite broutille hein, entre 100 et 200 km en fonction des espèces par rapport à la remontée de la fièvre vers le nord, a quand même des conséquences bêtement pratiques. Ainsi, y aura-t-il encore synchronisation entre des populations d'oiseaux migrateurs cherchant à nourrir leur nichée avec des insectes qui ne sont pas encore éclos ou déjà disparus ? Les oiseaux y laisseront-ils des plumes ? Se retrouveront-ils le bec dans l'eau ? Faudra-t-il remonter des quartiers d'hiver en décembre ou bien rester au pays ? Alors on sait que le changement est le principe de la vie hein, depuis 3 milliards 700 millions d'années, mais aujourd'hui, l'homme étant devenu une gentille force géologique dont la sensibilité est plus proche du bulldozer que d'une rémiche de passereau, eh ben c'est l'accélération du phénomène, la disparition du vivant qui oblige tout le monde à s'adapter. Oui, même un énarque qui ne voit que des intérêts comptables partout, eh bien pas du tout. Un seul mot d'ordre, remuons-nous, bande d'archaïques que nous sommes. Encore quelques petites années et les marabouts sans ficelle ni en Alsace, les papillons exotiques multicolores voleront sur la butte Montmartre, les cigales égayeront des parties de pétanque du mont Saint-Michel, et en plus des tortues de Floride qu'on rejette n'importe où depuis longtemps et qui colonisent les étangs, eh bien on pourra relâcher des caïmans dans la Loire sans craindre qu'ils ne s'enrhument. C'est une bonne nouvelle. Bon alors vous me direz, une montée d'un degré en Europe, hein, ça peut faire sourire quand on habite à Moutes dans le Doubs, on pourra bientôt chasser l'hippopotame, mais on sourit moins dans le Sahel où il fait déjà 40 degrés à l'heure du petit déjeuner. Parce que si nous ne pouvons plus rembourser le crédit de nos dettes, la faune et la flore, elles, paient cash en silence et depuis déjà un bon moment l'addition de nos débordements. Mais ce sont les soldes. Hein. Donc on oublie la fièvre climatique et on se concentre sur la seule fièvre qui vaille, la fièvre acheteuse, hein, pour retrouver allez, un climat, on va dire quoi, de confiance ? Ce monde est aussi fou qu'il est merveilleux parce qu'il y a des tas de possibles, on va le voir avec nos différents invités, mais auparavant donc une actualité. Des OGM dans le miel, eh bien c'est impossible selon la Cour européenne de justice hein, qui a mis en cause dans un jugement un apiculteur allemand. Il y a eu un très bon article d'ailleurs à l'époque de Martine Vallot dans Le Monde qui nous racontait cela parce que cet homme-là avait découvert du pollen de culture OGM dans son miel. Alors on a dit, bon, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, donc le miel ne peut pas être commercialisé. Et puis les apiculteurs français hein, de la Confédération Paysanne, entre autres, ont occupé le 6 janvier un centre Monsanto dans le Tarn-et-Garonne, ont été reçus hier au ministère de l'écologie. Juste rappeler que tout miel qui contient le moindre grain de pollen d'OGM Monsanto 810 est désormais interdit à la vente et doit être détruit. Alors un homme s'intéresse à cela depuis pas mal de temps, en tant qu'observateur, hein, il est photographe, c'est Éric Tourneret qui a un site formidable qui s'appelle Le Peuple des Abeilles, un ouvrage aussi qui s'appelle donc Les Cueilleurs de Miel. Donc Éric Tourneret, pourquoi y a-t-il urgence d'après les apiculteurs ?
Parce que tout simplement, ils ont peur qu'au printemps prochain, l'on retrouve du maïs OGM partout en France. Quand je dis partout, c'est que tout simplement, dans les campagnes, tout le maïs planté sera majoritairement des OGM.
Parce qu'en fait, le Conseil d'État a levé fin novembre le moratoire interdisant la culture de cet OGM.
Les semenciers préparent leur saison, donc c'est vrai que les semences vont arriver chez les agriculteurs fin janvier. Et donc, c'est un peu l'urgence pour les apiculteurs de dénoncer la mainmise de Monsanto sur les semences françaises à travers ces OGM.
En fait, aujourd'hui, on ne peut pas commercialiser un miel OGM en Europe.
Non, absolument pas. Il est interdit et donc ce miel-là va devenir, en fin de compte, impropre à la consommation.
Mais on a le droit de planter.
Mais on a le droit, par contre, de planter en plein champ des OGM aujourd'hui en France.
Alors, écoutez ce que nous dit Yvette Daté au micro de Nathalie Fontrelle, qui est membre scientifique de l'AFVB, donc une association pro-OGM.
Le conseil scientifique préconise de placer les ruches à 3 km au moins du champ d'OGM. Ceci a une conséquence qui est de déclarer la position de toutes les cultures OGM. Et ça, on le sait très bien, c'est pas sans risque, puisque jusqu'à maintenant, à quelques exceptions près, toutes les cultures ont été détruites par les faucheurs volontaires.
Donc si on l'écoute, en gros, tout va bien si on est à plus de 3 km, quoi.
Oui, tout à fait. Mais actuellement, là, c'est avec cette autorisation de mise sur le marché et ces graines OGM qui vont être disséminées partout en France, ça va être général. Les 3 km ne peuvent plus exister parce que c'est impossible
puis,
de
puis
suivre.
L'abeille,
et l'abeille, de toute façon, va des fois faire 4 km, etc. Et c'est même pas la question. La question, c'est en sachant que si les OGM rentrent dans la biodiversité en France et dans la chaîne du vivant, après, cette forme d'agriculture ne peut absolument pas cohabiter avec les autres filières agricoles. Ça veut dire la filière traditionnelle et la filière bio.
Donc c'est vraiment le problème de l'impossibilité de la coexistence aujourd'hui.
C'est vraiment un choix de société qui se pose. Mais le problème, c'est que ce choix-là n'est pas un choix citoyen. Les OGM vont, en fin de compte, personne ne les veut, mais ils rentrent par la fenêtre. Déjà, dans les grandes surfaces, on trouve du lait, de la viande, qui sont des animaux sont nourris avec des OGM. Et ça, le citoyen, à aucun moment, n'a été ni informé, ni a pu avoir une décision par rapport à cela.
Éric Tournoret, vous suivez donc ce monde apicole depuis longtemps. Dans cet ouvrage qui est formidable, qui s'appelle « Cueilleur de miel » aux éditions Rustica, vous avez rencontré donc différents peuples qui cueillent le miel. Et puis, vous êtes aussi rentré dans des champs OGM, comme en Argentine. Qu'avez-vous vu ?
C'est le silence total. On a l'impression d'être dans un lieu de mort. Il n'y a pas un seul insecte. C'est un soja qui est résistant aux herbicides et aux pesticides. Il n'y a pas un son d'insecte. Ce qui dit qu'il n'y a pas un son d'insecte, c'est qu'il n'y a pas un animal. Il n'y a plus de vivant.
Merci Éric Tournoret. Alors aujourd'hui, le commerce des grains OGM n'est pas interdit. Le gouvernement n'a pas encore pris la mesure qui interdit les semis de printemps, donc de maïs. Mais donc hier, il a dit qu'il maintenait son opposition à cette culture et que la culture de Monsanto 810 resterait donc interdite en France en 2012. Les apiculteurs attendent d'avoir des preuves un peu plus solides parce qu'on voit bien que du côté du ministère de l'Agriculture, on traîne un peu des pieds de ce côté-là. On a un lobby quand même pro-OGM extrêmement puissant en France qui est très décomplexé. Donc voilà, donc cohabitation possible ou impossible, c'est pas du tout évident. Patrick Vivray donc est avec nous aussi en direct, professeur de philosophie, magistrat honoraire à la Cour des comptes. Vous avez écrit différents ouvrages qui s'appellent « Reconsidérer la richesse » aux éditions de l'Aube, « Pourquoi ça ne va pas plus mal » aux éditions Fayard, et puis aussi « Comment vivre en temps de crise ». C'est un ouvrage récent avec Edgar Morin aux éditions Bayard. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, ce que vous venez d'entendre sur peut-être sur les abeilles?
Ça vient illustrer un des éléments que j'avais mis en évidence dans le rapport que j'avais fait au gouvernement à l'époque du secrétariat d'État à l'économie solidaire, rapport que vous avez cité, Reconsidérer la richesse, où j'avais dit que nous avions des thermomètres curieux qui étaient des thermomètres qui nous rendaient malades. Alors à l'époque, je l'avais dit à propos du produit intérieur brut qui comptait positivement un certain nombre d'activités dangereuses ou destructrices parce qu'elles généraient des flux monétaires. Mais à l'heure de la dégradation du triple A, on a un bel exemple de thermomètre qui nous rend malade parce que ce qu'on pourrait attendre de véritables agences de notation qui soient cohérentes avec ce que tous les sommets internationaux sur le développement durable nous disent, c'est qu'on, par exemple, on dit, tiens, le G20 a été dégradé parce que le A de sa note écologique, compte tenu de ce que vous dites à propos des OGM ou compte tenu de l'échec du sommet Durban, donc le A écologique a été dégradé. Pour les mêmes raisons, le A social a été dégradé parce que le nombre de gens expulsés, le nombre de gens qui sont condamnés à la soupe populaire, la dégradation des services sociaux, etc. On a dégradé le A. Même le A de l'économie productive a été dégradée parce que la démesure de l'économie financière, qui représente aujourd'hui plus de 97% des échanges quotidiens.
Ça c'est très intéressant parce que vous l'aviez soulevé. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui moins de 3% dans le monde au quotidien d'échanges de biens et de services réels. C'est-à-dire que tout le reste...
C'est de l'économie spéculative. C'est ce que Bernard Liétard, qui a été pendant longtemps un des responsables de la Banque centrale de Belgique, avait mis en évidence. Il l'avait mis en évidence dès 2007 pour annoncer la probabilité de la crise financière qui s'est effectivement produite en 2008. À l'époque, il avait dit, sur les 3200 milliards de dollars qui s'échangeaient quotidiennement sur les marchés financiers, moins de 3%, 2,7% exactement, correspondaient à des biens et des services effectifs. Mmh. Donc ça s'appelle la démesure de l'économie financière. Et si on avait des agences de notation responsables, du point de vue d'un développement humain soutenable, elles s'inquiéteraient de ces critères écologiques, sociaux ou d'une économie réellement productive par rapport à l'économie spéculative, vous voyez.
Eh bien, c'est pour ça que vous êtes là, vous voyez, Patrick Vivray. Et donc, dans quelques instants, on va rejoindre Bernard Catlat et puis aussi Gilles Van Der Potten pour Reporter d'Espoir, avec donc à la fois des constats et puis aussi des gens qui font et qui agissent.
Nous allons agir, nous en écoutons ce merveilleux disque, Moriarty, sur France Inter, choisi par Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur.
CO2 Mon Amour, Denis Chessou sur France Inter, tous les samedis à partir de 14h.
Get us started like a joke, like a needle, like a sting, like a hand around my throat. Boys and girls were dancing in the rain.
You will do whatever I will do.
Avançons, mais oui, avançons, CO2 Mon Amour, votre magazine de nature et d'environnement, en faisant d'abord peut-être un constat. Et pour faire un constat, on a besoin d'un sociologue qui est Bernard Cattelat. Bonjour Bernard Cattelat.
Bonjour.
Vous avez sorti un ouvrage collectif qui s'appelle « Ce que veulent les Français », c'est aux éditions Erol, afin en fait d'alimenter le débat, on va dire, social à l'approche de la campagne présidentielle. Donc c'était le bon moment pour interroger les Français, plus de 15 000 donc interviews. En gros, c'est que veulent-ils, qu'espèrent-ils, que rejettent-ils? Et puis, en fait, vous abordez plein de thèmes, mais l'environnement en fait n'est pas considéré comme un thème parce qu'en fait il est là un peu partout dans la société. C'est ce que vous dites aujourd'hui. Il y a une maturité donc peut-être par rapport à ce thème, en tout cas en ce qui concerne la sensibilisation, qui fait que vous n'avez pas eu besoin de l'extraire et d'en faire un chapitre particulier, Bernard Cattelat.
Oui, c'est vrai. On n'en a pas fait un de nos 15 chapitres qui correspondent à 15 sujets sur lesquels la France doit prendre des décisions dans les années qui viennent et qui vont conditionner la vie de nos gosses pour les 15 ou 20 prochaines années. En fait, pour deux raisons, je crois. La première, c'est que l'écologie, effectivement, s'est répandue partout. Il y a une prise de conscience qui s'est faite et elle s'est un petit peu diluée dans tous les chapitres que nous traitons. Mais il y a aussi une deuxième raison qui est un peu plus inquiétante, peut-être. C'est que, par rapport à il y a 5 ans, par exemple, la préoccupation écologique reste forte, mais l'embrayage qui fait que l'on passe à l'acte et qu'on fait des efforts ou qu'on se mobilise pour quelque chose, lui, s'est grippé au cours des 5 dernières années. Et c'est un peu la raison pour laquelle on lui a donné moins d'importance, parce que subjectivement, au risque de choquer beaucoup de gens, ça a énormément d'importance intellectuelle, théorique, virtuelle, pour la majorité de nos concitoyens, et ça a extrêmement peu d'importance dans leur vie quotidienne. Ce n'est pas une priorité aujourd'hui, malheureusement.
Alors, dites-nous, justement, où, entre guillemets, où ça coince, on va dire, psychologiquement, peut-être culturellement.
Ce qui coince, c'est la macroécologie. Ce que j'appelle macroécologie, c'est les grands problèmes planétaires, à très long terme, la couche d'ozone, la forêt amazonienne, la fonte des glaces, la montée des eaux, etc., etc. Et ça coince, je dirais, 4 fois. Ça coince psychologiquement, d'abord, parce que, incontestablement, il y a une sensibilité qui s'est implantée. Elle s'est implantée avec des grands cris d'alarme, des grands scénarios catastrophes, et les gens ont eu peur, etc. Mais ces scénarios catastrophes sont tellement loin, sont tellement statistiquement improbables, ils ont tellement peu de chances d'arriver avant que je sois mort, qu'ils ne sont pas mobilisateurs. On a été sensibilisés à l'inverse, je dirais, par des Artus Bertrand qui ont fait des choses extraordinaires sur la beauté de la nature. On a des films qui nous montrent le chant des baleines et tout ça. Tout ça nous émeut profondément. On est très triste à la fin du film de voir les requins et les dauphins se faire prendre dans les filets dérivants. Mais qu'est-ce qu'on y peut, hein ? Et on est là devant des visions de la nature et des visions de l'environnement qui sont trop lointaines et qui sont soit trop dramatiques, soit trop poétiques. Elles nous émeuvent, mais elles ne passent pas, elle ne se transforme pas facilement en comportement. La deuxième raison, je crois, pour laquelle ça coince sociologiquement, c'est culturellement. On a eu une époque écolo où, au fond, on a beaucoup, peut-être un peu trop, opposé Gaïa, la mère nature, à la science, la technologie qui serait vilaine et méchante. Alors, à tort ou à raison, je n'en sais rien, il y a un retournement d'opinion depuis maintenant 3 ou 4 ans qui fait qu'il y a un retour d'affection, je dirais, pour la science, pas nécessairement pour toutes les technologies industrielles, mais pour la recherche scientifique. Et il y a un certain nombre de technologies, notamment toutes les technologies numériques, qui, encore une fois, à tort ou à raison, ont aujourd'hui une bonne image, une image soft, légère, humaine, etc.
On va dire les green tech, hein, pour faire simple.
Pardon ?
On va dire les green tech.
Voilà, alors, les green tech sont tout à fait, c'est un mythe dans une certaine mesure, mais c'est tout à fait le symbole de cette recherche aujourd'hui que je dirais les écologistes professionnels n'ont pas suffisamment pris en compte, qui est la recherche aujourd'hui dans notre opinion publique d'un remariage entre science, technologie et d'autre part la nature qui devrait nous servir de modèle. Et puis si on se demande encore pourquoi ça coince un petit peu dans la mobilisation écolo du grand public en ce moment, il y a une raison sociologique, elle est encore plus importante. Qu'est-ce qu'on nous apprend depuis 10 ou 15 ans ? On nous apprend à vivre, non plus à long terme, mais à court terme, au jour le jour.
C'est-à-dire vivre en temps réel.
Voilà, la civilisation d'Internet, c'est le mot, hein, le temps réel. Donc c'est au détriment du passé, de l'histoire, de notre mémoire, mais c'est au détriment du futur. Et bien entendu, ce qui va nous arriver dans 50 ans avec une montée des eaux, est-ce que ça sera 2 ou est-ce que ça sera 5 cm ? C'est une préoccupation qui ne touche pas réellement les gens dans la vie quotidienne, même si c'est bien sûr un problème absolument important. Plus la mondialisation se développe, ça c'est une deuxième raison, plus on a tendance à se replier sur chez nous.
Donc nationalisme, régionalisme...
Absolument, le communautarisme, toutes ses formes, le tribalisme, le clanisme au fond, moi et les miens d'abord. Donc, bien sûr l'Amazonie c'est important, bien sûr l'Arctique c'est important, tout ça est beau, poétique, dramatique, mais c'est pas chez moi au fond des choses, et ça a du mal à me mobiliser.
Et puis politiquement aussi.
Et politiquement, je voudrais pas faire de la peine à personne, mais on a un peu l'impression que le mouvement écolo, les Verts pour tout dire, se sont gourés de sujets. Sociologiquement, j'entends bien, j'ai pas de compétences pour juger sur le fond. Mais en faisant, notamment pour la campagne actuelle, de la sortie urgente et rapide du nucléaire, le thème principal, ils se sont mis à côté de la sociologie majoritaire. Alors ça ne veut pas dire que le sujet n'est pas important, ça veut dire simplement que l'opinion n'est pas prête à ça. Dans toutes les études qu'on voit chez nous, la majorité de Français sont d'accord pour en sortir, mais doucement, il n'y a pas le feu, ça ne presse pas, il n'y a pas de vrai danger, et il y a une confiance dans la technique nationale, il y a une confiance dans le service public qui s'en occupe, tant qu'il restera un service public en tout cas. Il y a une sorte de slogan, je dirais même pas peur, et c'est pas une urgence. La proportion de chances que j'ai, moi, d'être irradié avant de disparaître, elle est tellement faible que c'est pas une vraie urgence. Alors, pour toutes ces raisons, il y a l'embrayage, je dirais, c'est un vrai phénomène. L'embrayage patine alors que la mobilisation mentale est très forte.
Bernard Catlat, est-ce que les Français sentent que l'éducation à l'environnement, leur prise de conscience, leur responsabilité personnelle est plus importante, aussi importante, on va dire, que le côté réglementaire et étatique ?
Non. C'est une des choses assez frappantes, d'ailleurs. Il y a une quinzaine d'années, quand on parlait de ces problèmes, une majorité de gens pensaient que ça allait se résoudre par une éducation, une prise de conscience, une responsabilisation dès l'école, dès les enfants, etc. C'était un problème éducatif. Et aujourd'hui, un peu à l'inverse, parce qu'on est sans doute dans une société qui a viré répressive, parce que un peu on a eu l'expérience de la cigarette, on a eu l'expérience d'un ceinture de sécurité, on a eu l'expérience de la limitation de vitesse, aujourd'hui une majorité de gens ferait plutôt confiance à des réglementations répressives, par exemple pour limiter les voitures dans les villes, par exemple pour limiter les polluants, etc., etc. On a un peu changé de civilisation, je dirais, après la période laxiste permissive des années 60, 70, 80. Il y a 10 ans, on est entré dans une société qui s'est résignée à avoir des règles pour nous obliger à bien faire.
Alors juste peut-être en une ou deux phrases, que vous l'avez travaillé aussi, Bernard Catlat, pour avoir une meilleure mobilisation, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faut partir de quoi ? Du quotidien des gens en permanence ?
Oui, je crois qu'il faut partir, moi j'appelle la microécologie par opposition à la macroécologie, il faut absolument repartir du quotidien des gens, sinon on n'aura pas de levier pour les mobiliser. Il faut repartir de thèmes extrêmement concrets. Alors, nous, on en a traité un dans notre livre, c'est ce qui se rapproche, je dirais, le plus de notre discussion. On a un chapitre sur la vitalité et la santé. C'est un des thèmes majeurs pour deux raisons. Parce que la crise nous pousse à être de plus en plus performants, compétitifs, jeunes éternellement et tout ça. Et en même temps, elle nous pousse à prendre soin de soi parce qu'on a peur de mourir. C'est la dernière chose qui nous reste, c'est la survie. Et sous cet angle, au fond, d'une écologie des modes de vie, je reviens à mon thème précédent, le nucléaire n'est pas très mobilisateur, parce que j'ai pas beaucoup de chances d'en mourir. Ce qui est mobilisateur, c'est que j'ai plus de chances de mourir d'une malbouffe, d'une d'OGM mal gérée, mal contrôlée, etc. Et ce thème de la vitalité, au fond, qui mélange l'alimentation, l'hygiène beauté, la pharmacologie, les drogues, la gymnastique, les sports, ça touche plein de chapitres de notre vie, c'est super concret, c'est un choix de mode de vie, mais c'est très collectif, parce qu'on touche à la santé publique, donc au trou de la sécu et tout ça. C'est très industriel, il y a des enjeux industriels monumentaux et des lobbies énormes, l'industrie agroalimentaire, l'hygiène beauté, les labos pharmaceutiques, tout ça face à la petite industrie de l'agriculture bio. Et c'est très très politique, vous parliez tout à l'heure des OGM, c'est bien le match OGM contre bio, malbouffe contre bonne bouffe, etc. Et dans ce chapitre de notre bouquin, on a traité au fond deux scénarios. Et on a essayé de se dire, au fond, quels sont les deux modes de vie devant lesquels on est qui vont, ou pas, être favorisés par la politique être servis à nos gosses pour les années qui viennent. Alors, c'est à chacun de choisir sa stratégie. Mais en même temps, la politique a une énorme responsabilité là-dedans, bien sûr.
Écoutez, un grand merci, Bernard Catlat. Donc, moi, je vous renvoie donc sur cet ouvrage, hein, Ce que veulent les Français, aux éditions Erol, le style de vie 2012-2017. Vous pouvez rester avec nous parce que vous connaissez aussi Patrick Vivray, donc, je le rappelle, un professeur de philosophie, magistrat honoraire à la Cour des comptes.
J'ai beaucoup aimé la formule du thermomètre qui rend malade, parce que je crois que c'est pas mon domaine de compétence, mais c'est quelque chose qui est terriblement vrai dans la conjoncture actuelle où on voit que la finance, au fond, qui n'était qu'un outil comptable de l'économie, est en train de se prendre non plus pour le thermomètre, mais pour le malade lui-même. Et elle essaye d'écrabouiller l'économie et de la remplacer.
Et alors justement, question à Patrick Vivray, qu'est-ce qui est au cœur, on va dire, des catastrophes, des turpitudes que nous voyons, mais quel est le point commun dans cette crise, on va dire, qui est systémique, cette crise écologique, financière et sociale?
Ben, le point commun, c'est la démesure. C'est ce que les Grecs appelaient déjà l'hubris, l'excès. La démesure dans nos rapports avec la nature, ce sont les conséquences de l'hyperproductivisme. On en a donné quelques exemples tout à l'heure. La démesure dans le creusement des inégalités sociales. Lorsque la fortune personnelle de 225 personnes est égale au revenu cumulé de 2,5 milliards d'êtres humains, c'est un bel exemple de démesure.
Ah, oui.
Et la démesure, on en a parlé par la masse de l'économie spéculative dans son rapport à l'économie réelle. Et cette triple démesure, elle génère, puisqu'on nous parle en permanence de la question des dettes, elle génère en réalité non pas une dette, mais trois dettes. La première de ces dettes, c'est la dette écologique, qui est mesurée par un indicateur tel que l'empreinte écologique. Et c'est ce que nous devons, compte tenu des excès liés à notre mode de consommation et de production, ce que nous devons notamment à nombre de pays du Sud. La dette sociale, c'est tout ce qui, depuis les années 80, depuis ce qu'on peut appeler la contre-révolution conservatrice anglo-saxonne, a transféré 10% des revenus du travail vers le capital. Ça représente des sommes énormes, plus de 30 000 milliards de dollars.
Oui.
Donc ça, c'est de la dette sociale. Et ce qu'on appelle aujourd'hui de la dette financière, c'est pour une bonne partie de la dette sociale inversée. Parce que ce qu'on devrait normalement à des catégories plus modestes, par le biais de l'endettement, on finit par le devoir aux catégories les plus aisées. Je vous donne un exemple simple à l'époque où j'ai travaillé à la Cour des comptes. La Cour des comptes, pour la partie française, elle avait travaillé sur la mise en évidence de 100 milliards d'euros d'exonération fiscale, de baisse de cotisations sociales. Ben, ces 100 milliards, du point de vue des catégories aisées, c'était un double bénéfice. Elles payaient moins d'impôts, moins de cotisations sociales, et d'un autre côté, avec ce supplément de revenus, elles pouvaient se permettre de le prêter, y compris de le prêter aux États, avec intérêt.
Oui.
Mais vu du côté des populations plus modestes, c'était une double peine. Elles recevaient moins en transferts sociaux, en qualité de service public, puisqu'on disait qu'il y a moins de moyens pour les financer. Et maintenant, à titre soit de citoyen contributeur, soit tout simplement de consommateur, on est prié de venir payer les effets de la démesure financière. On a déjà payé une fois avec la crise bancaire de 2008, et maintenant on nous demande de payer une deuxième fois, et beaucoup plus gravement encore, avec les programmes d'austérité. Ça, c'est ce que j'appelle de la pseudo-dette financière, qui est en réalité de la dette sociale inversée. Donc si on veut commencer pour de bon à traiter la dette financière dans des conditions telles qu'elle n'aggrave pas encore des inégalités déjà tout à fait démesurées, il faut commencer par réduire drastiquement les inégalités de revenus. Et c'est seulement ainsi qu'on pourra envisager, en commençant à rembourser la dette, que les excès de dépassement de revenus soient ensuite récupérés pour aller financer des investissements écologiques et des investissements sociaux.
Vous rappelez aussi très justement ce que disait Kofi Annan lorsqu'il était encore secrétaire général des Nations Unies. C'était donc avant 2008. Là, il y a eu un avant et un après.
Oui, tout à fait, parce que Kofi Annan, avant de quitter le secrétariat général des Nations Unies, a fait dans la presse internationale un article très intéressant dans lequel il faisait remarquer que les deux grands débats internationaux qui s'étaient construits, d'une part avec la question du climat et dans le cadre de la préparation de Copenhague, d'autre part avec les grandes questions sociales, les objectifs du millénaire des Nations Unies, avaient comme caractéristique que les mots clés qui étaient employé pour caractériser ces enjeux, c'était les enjeux de moyen et de long terme, c'était des enjeux de régulation, c'était même des enjeux de planification. Mmh. Et tous ces éléments, disait-il, ont complètement disparu du champ du débat public international à partir du moment où on est rentré dans la crise financière. Et le fait que cette crise financière, elle est quand même très largement liée à la responsabilité d'acteurs qui n'ont cessé, depuis 40 ans, de nous parler de ce qu'on pourrait appeler le modèle DCD, c'est-à-dire dérégulation à outrance, compétition à outrance, délocalisation à outrance. Ben, tout le débat public mondial était en train de s'orienter, au contraire, vers de la régulation, vers de la nécessité de coopération, vers des formes de relocalisation, évidemment non autarciques.
Ce qui veut dire que c'était gênant.
Mais c'est très gênant. C'est très gênant parce que quand vous avez des acteurs dont le seul objectif est la recherche d'un profit à court terme, et à n'importe quel prix, y compris au prix de régression écologique et sociale, ben ça veut dire, pour reprendre une autre expression du successeur de Kofi Annan, hein, Ben Ki-moon, qui disait à propos des problèmes du climat, l'humanité fonce vers l'abîme, le pied sur l'accélérateur. Alors de deux choses l'une, ou bien ce monsieur est un fou furieux et à ce moment-là, il faut le renvoyer à ses chères études, ou bien il dit quelque chose de profondément vrai, et à ce moment-là, la priorité absolue, c'est d'arrêter de foncer vers l'abîme, ralentir, de préférence même s'arrêter, et choisir un autre cap qui serait justement le cap d'un développement humain soutenable.
Alors là, on est sur un constat, on va retourner donc après le gant, parce qu'on voit bien qu'on est à l'opposé de la sagesse sur laquelle donc vous travaillez aussi, voir aussi quelles sont nos lumières vers lesquelles on peut se diriger. Et nous avons aussi donc avec nous Gilles Van Der Potten, qui est à la tête de la rédaction de l'ONG Reporter d'Espoir. Vous avez écrit un ouvrage d'entretien avec Stéphane Hessel qui s'appelle aussi donc « Engagez-vous ». Donc après son appel, montrez-nous ce qui se passe, ce que l'on ne sait pas, ce qui ne fait sûrement pas encore sens, si vous voulez, pour beaucoup de gens, mais qui existe déjà à travers différents exemples que vous avez pu couvrir.
C'est vrai, pour revenir sur les constats que je partage avec Patrick Vivret, on baigne tous dans une atmosphère relativement catastrophiste, assez anxiogène. Oui. Or, ce dont on se rend compte quand on parcourt la France ou le monde à la rencontre d'initiatives, c'est que partout, il existe des initiatives, certes mineures, certes minoritaires aujourd'hui, mais extrêmement riches. Mm-hmm. Et partout, il y a des hommes, des femmes, des collectivités, des coopératives qui... trouve des solutions, qui proposent des remèdes à cette crise, à cette polycrise dont vous parlez.
D'ailleurs, l'émission excellente de mon copain Philippe Bertrand, Carnet de campagne, aussi le prouve tous les jours, aussi sur France Inter, avec plein d'initiatives positives, des petites choses sans arrêt, mais qui sont là. Donc, qu'est-ce que l'on a, par exemple?
Ce dont on se rend compte, c'est que les solutions ne sont pas, comme on voudrait nous le faire croire parfois, le lot de quelques utopistes. Elles sont réelles, elles sont en cours, que ce soit dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, dans les fournisseurs d'énergie verte, les coopératives, les chercheurs qui développent des alternatives naturelles aux pesticides. J'en prends une par exemple, c'est Agroxine par exemple. On connaît les qualités et aussi et surtout les pouvoirs dévastateurs des produits phytosanitaires chimiques utilisés dans l'agriculture intensive, mais il existe des alternatives.
Ça, c'est une start-up qui est en Bretagne, Agroxine.
Voilà, tout près de Quimper et qui développe des produits phytosanitaires naturels.
Saint-Évarzec, qui est une sainte bretonne.
Voilà. Et donc, elle met au point des biofertilisants, c'est-à-dire des produits à base de souches naturelles de champignons qui permettent de lutter et de prévenir des maladies, oui. Notamment les maladies de la vigne. Et donc, au terme de plusieurs années de recherche, cette entreprise Agroxine a développé plusieurs solutions de traitement naturelles et donc respectueuses de l'environnement.
Que fait l'association Lanterne Magique aux Philippines, me semble-t-il ?
Bah écoutez, on parlait de la nature, on voit qu'elle regorge d'idées, mais le bon sens aussi. Est-ce que vous connaissez cette lanterne magique, oui, en effet, qui fait des miracles aux Philippines actuellement? En fait, c'est tout simple. Vous prenez une vulgaire bouteille en plastique, vous la remplissez d'eau de Javel et d'eau, vous la fixez sur le toit d'une habitation de fortune, et la lumière est. En fait, dès les premiers rayons du soleil, ce qui se passe, c'est que ce procédé éclaire votre logement comme une ampoule de 50 watts à peu près. Et donc à Manille, il y a 25 000 foyers actuellement qui profitent de ce dispositif.
On a pas loin de 2 milliards d'habitants qui n'ont pas d'électricité aujourd'hui dans le monde. Hein, donc c'est extrêmement important. Si on va dans l'Oise, tenez, on va aller dans l'Oise, pas très loin d'ici, on va rencontrer qui ? Phytostore peut-être ?
Phytorestore, pardon. Vous connaissez peut-être la phytorestauration, c'est l'utilisation des plantes comme principal agent de traitement des pollutions. Donc grâce à des roseaux, des iris ou des joncs, on peut traiter les eaux usées, filtrer l'air vicié ou encore dépolluer des friches industrielles. Et donc Phytorestore, c'est une entreprise assez pionnière dans le domaine. Elle a créé la première bioferme au monde, en Seine-et-Marne, à 1 heure de Paris. Et donc qu'est-ce qu'on y trouve ? Sur plus de 100 hectares, on traite par le pouvoir des plantes des déchets industriels, des boues, des lisiers, etc., qu'on transforme ensuite en compost. Et donc c'est une manière de valoriser des déchets qui habituellement ne trouvent pas de débouchés.
Alors on le rappelle, on n'est pas dans du greenwashing, on n'est pas dans développementdurable.com, là, c'est pas ça du tout. C'est qu'il y a des gens qui essayent de penser la société autrement. Et ça vous intéresse bien aussi, Patrick Vivret, parce que on le disait, à la fois la démesure et le mal de vivre, qui sont quand même des cocktails absolument explosifs, on rajoute aussi l'humiliation dedans, donc des peuples, c'est l'exact opposé de la sagesse. Donc il y a quand même une importance du pari éthique qui est fondamentale derrière tout cela.
Oui, c'est à la fois un pari éthique et puis un pari politique au sens de la qualité démocratique, hein, puisque pour reprendre ce que disait tout à l'heure Bernard Catelat, entre le poétique et le dramatique, nous avons besoin d'un retour du politique, mais d'un politique qui joue son véritable rôle de fédérateur d'énergie. Toutes les initiatives, toutes les potentialités créatrices dont Gilles vient nous parler, c'est aussi le rôle du politique que de fédérer ces énergies et de les hausser à un niveau tel qu'ils soient capables de venir s'opposer à toutes les logiques de nuisances actuelles, que ce soit des nuisances écologiques ou que ce soit des nuisances sociétales. Et on a besoin de réencastrer et le politique et l'économique par rapport à l'éthique. Vous savez, c'est la question du discernement sur la nature des activités. Ce n'est pas sans lien avec ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la question de la richesse des indicateurs. Pourquoi, par exemple, dans la comptabilité, utilise-t-on le mot « bénéfice » ? Parce que bénéfice, ça ne veut pas dire profit financier.
C'est théologique, non ? Je sais pas.
Mais oui, c'est un mot latin. Oui. Hein, benefatio, c'est faire le bien. Bon, bénéfice, oui. Ce sont les bienfaits. Voilà. Ça nous vient de l'époque de ce qu'on appelait l'économie du salut, bien analysée par Max Weber dans son fameux « Éthique protestante et esprit du capitalisme ». Et par rapport à la question du salut ou du risque de damnation, on avait besoin d'outils de repérage. C'était la comptabilité du salut. Dans la comptabilité du salut, on avait d'un côté les bénéfices bien faits, et puis de l'autre côté, on avait les méfaits, qui étaient les fameux péchés. Et c'est intéressant de rappeler que le péché le plus grave, le péché mortel par excellence, ça n'était ni le meurtre, ni les 7 péchés capitaux, c'était l'usure et le prêt à intérêt.
Ah oui.
Parce que c'était le blasphème suprême, c'était laisser croire que l'argent était créateur dans le temps.
Il y a un bon paquet de gens qui sont en enfer là déjà tout de suite.
Exactement, hein. Mais c'est intéressant à rappeler parce que de quoi avons-nous besoin aujourd'hui ? On a besoin, à travers les questions de développement humain soutenable, de revenir à un discernement sur la nature des activités. Sont-elles bénéfiques ? Sont-elles nuisibles ? C'est ça la question principale qui nous est posée. Parce qu'une comptabilité purement monétaire ne nous renseigne pas sur ce point. Vous pouvez avoir des flux monétaires qui sont générés par des accidents, des crises, des pollutions d'un côté, et d'un autre côté, des activités bénéfiques, vitales, utiles et nécessaires, qui n'apparaissent pas parce qu'elles ne vont pas donner lieu à des flux monétaires. Par exemple, toutes les activités bénévoles. Et donc, réinventer la notion de bénéfice d'un côté et d'activité nuisible ou maléfique de l'autre côté, et repérer que parmi les maléfices majeurs, après tout, nous sommes dans une civilisation dont les origines, c'est le judaïsme, le christianisme et la Grèce. Mmh. C'est les trois grandes mabelles. Ces trois systèmes de valeurs disent la même chose sur ce point. Les prophètes de l'Ancien Testament, c'est la critique du veau d'or, c'est Dieu ou Mammon, il faut choisir. Le christianisme, c'est, on connaît la parabole célèbre du jeune homme riche où il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Et la Grèce, c'est Aristote qui disait déjà, la cité grecque est en danger si l'économie dérape et devient ce qu'il appelle crématistique, c'est-à-dire qu'elle oublie que l'argent est un simple moyen et quand elle devient une finalité. Eh bien, à l'heure où nous avons un vrai rendez-vous de civilisation, il serait temps de revenir à ces valeurs essentielles.
Choisis les jours de pluie. Si c'est la nuit qui mène au paradis. Si c'est la pomme, si j'ai croqué le fruit. Ne prenez pas de pause, ne cueillez pas de roses, ne prenez pas ma peine. Si c'est la
De mon amour, Denis Chessou.
C'était Berry sur France Inter, Si c'est la vie. Nous sommes en direct avec Patrick Vivret, nous sommes avec Gilles Van Der Potten, Bernard Catla aussi, donc sociologue. Et donc, tenez, Patrick Vivret, tout à l'heure, là on va partir un peu sur les solutions, sur le travail que l'on peut faire nous-mêmes et aussi sur la société. Mais que nous a raconté le Wall Street Journal, peut-être dans un éclair de lucidité, il y a pas si longtemps, de finir sur la bourse?
Et oui, le Wall Street Journal a eu cette phrase très éclairante, disant textuellement ceci: Wall Street ne connaît que deux sentiments, l'euphorie ou la panique. C'est exactement la définition de la psychose maniaco-dépressive. Et les personnes qui connaissent le problème savent que l'une des caractéristiques de la psychose maniaco-dépressive, c'est une perte de contact avec le réel, notamment avec le réel économique. Et dans ces cas-là, on préconise des mesures de curatelle ou de tutelle. Donc aujourd'hui, la question des marchés financiers, c'est pas simplement une question de régulation, c'est une question sanitaire mondiale.
Et les paradis fiscaux se portent merveilleusement bien.
Ah, les paradis fiscaux, depuis l'époque où, selon notre président de la République, ils ont été éradiqués, ils ont doublé de volume.
Bien. Gilles Van Der Potten, je me retourne vers vous. Donc, à la tête de la rédaction ONG, donc Reporter d'Espoir, vous avez donc aussi tous les éléments sur le site de CO2 Mon Amour et d'autres que Anne Gouzon donc, vous a préparé. On veut d'autres exemples, là aussi, de gens qui changent, qui ne sont pas du tout dans cette folie, dans ce paradigme. Voilà, on veut autre chose.
Bah allons faire un tour du côté d'Haïti, oui. Toujours en puisant dans les trésors et les ressources de la nature. On a découvert un arbuste miracle, qui pousse dans les zones arides. Je veux parler du Moringa oleifera. Mm-hmm. En fait, ces feuilles peuvent être consommées en salade et une fois réduites en poudre, une cuillerée permet de rendre plus nourrissante une bouillie pour bébé, par exemple. Mieux encore, on dit qu'elle est 7 fois plus riche en vitamine C que l'orange. Mm-hmm. Donc il se trouve que cet arbuste pousse à Haïti, île que l'on sait ô combien dévastée. Et un Français, Jean-Yves Claverol, s'y est intéressé alors que les habitants, semble-t-il, en ignoraient souvent les vertus. Et donc il a travaillé avec des jeunes entrepreneurs agricoles haïtiens qui se sont mis à cultiver avec succès cet arbuste.
Et si on va au Kenya, il y a le phénomène des jardins partagés que l'on peut connaître aussi là-bas.
Tout à fait, les jardins partagés et également les sacs potagers.
On imagine qu'il n'y a pas forcément énormément de terre. En tout cas, lorsqu'il y en a, souvent, elle est achetée avec des bails emphytéotiques, on le sait, par d'autres pays. Mais...
Tout à fait. Alors la question, c'est comment se nourrir quand on n'a ni espace pour cultiver la terre, ni argent pour acheter des semences. Et donc, c'est là qu'intervient le sac potager. En fait, 20 000 familles kenyanes l'ont adopté, qui vivent dans un immense bidonville de Kibra à Nairobi. Et en fait, il s'agit de faire pousser des fruits et des légumes dans de simples sacs percés de trous, remplis de terre et d'une colonne de cailloux. Et avec 4 à 5 sacs, on parvient à nourrir une famille. On parvient à couvrir ses besoins en choux, en épinards ou en d'autres légumes riches en protéines. Et donc ce projet a été développé au Kenya en réponse à la flambée des prix des ressources. Et donc on voit germer aussi parallèlement à ce dispositif une nouvelle économie dans certains endroits par laquelle les habitants commercialisent le surplus de fruits et de légumes.
Patrick Vivray, cette crise, ça peut nous permettre aussi donc un saut qualitatif. Vous travaillez vraiment depuis longtemps avec ces dialogues en humanité, avec ce qu'on appelle les ateliers du sensible. Vous allez nous dire ce que l'on fait. Tout à l'heure, je parlais à la fois de se réformer, c'est ce que nous dit d'ailleurs aussi très très bien Pierre Rabhi, quand on parle de... je ne sais pas, ça peut être de l'abondance frugale, de la sobriété heureuse, etc. Et puis aussi, réforme de la société, ça passe aussi par le politique. Donc, on travaille faut travailler sur les deux. Enfin, ça ne peut pas être que le travail individuel non plus. Quelle est un peu votre analyse ?
Ben, c'est justement important de lier les deux. Lors d'un forum social mondial à Porto Alegre, on a appelé ça l'axe TPTS. C'est-à-dire transformation personnelle et transformation sociale. Il faut arrêter d'opposer les deux parce que nous avons besoin à la fois de transformation structurelle pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, mais ces transformations structurelles, elles ne peuvent s'ancrer que si on a des personnes qui elles-mêmes sont capables d'aller vers plus de qualité d'aide, de qualité de relation, de qualité de rapport à la nature. Et avancer simultanément sur ces deux terrains, c'est d'ailleurs au fond la leçon de grands personnages tels que Gandhi ou Jaurès. Hein. Il y a un texte magnifique de Jaurès qui est repris dans le très beau film de Guédi Djan, Les neiges du
Kilimandjaro,
et qui dit exactement ceci hein, sur la question du courage. Et la situation de crise actuelle, comme dans toutes les grandes bifurcations de l'histoire de l'humanité, elles illustrent bien ce que Antonio Gramsci, le philosophe marxiste, disait, à savoir que la crise se produit lorsque le vieux monde tarde à disparaître, le monde nouveau tarde à naître, et dans ce clair-obscur, ajoutait-il, des monstres peuvent apparaître. Alors évidemment, si on est centré sur le vieux monde et sur les monstres, on est saisi par les sentiments de peur et d'impuissance. Mais si on se tourne, comme Gilles vient de nous le faire remarquer, vers la germination créative du nouveau monde, alors on voit bien qu'on est rentré dans une phase de l'humanité où un saut qualitatif vers plus d'humanisation est possible, parce que ces mêmes défis critiques sont aussi des occasions pour notre famille humaine de prendre conscience de son destin commun. On peut dire que l'humanité a commencé à devenir sujet de sa propre histoire, d'abord sous forme négative, après Hiroshima, possibilité de s'autodétruire. Mais peu de temps après, grâce justement à des hommes remarquables comme Stéphane Hessel, avec la Déclaration universelle des droits humains, prise de conscience que l'humanité peut être un sujet positif de sa propre histoire. Elle ne peut être ce sujet positif que si elle apprend à se réconcilier avec la nature et à se réconcilier avec elle-même.
Edgar Morin parle de terre patrie aussi.
De terre patrie, et Edgar Morin articule la question de la métamorphose avec la question des potentialités créatrices. C'est-à-dire, nous sommes dans ce moment de bifurcation où ça n'est pas faire du catastrophisme de dire que l'humanité risque la sortie de route. Mmh. Elle a même l'embarras du choix dans les moyens de s'autodétruire. Mais elle peut aussi utiliser ces dangers comme une source d'opportunité pour construire un destin commun où à ce moment-là, elle progresse. Justement, c'est le rôle des dialogues en humanité dans une qualité d'humanisation. Et cette qualité d'humanisation, elle passe par le fait que ce n'est pas simplement de l'intelligence mentale, la société de la connaissance, les technologies de communication qui sont certes essentielles, mais c'est aussi une progression de l'intelligence du cœur. Ce que les sagesses orientales apprenaient, c'est-à-dire les trois intelligences, corps, cœur, esprit, et c'est la raison pour laquelle les dialogues en humanité, par exemple...
Il se passe sous les arbres.
Il se passe sous les arbres. Il va y en avoir en Inde, à Bangalore, là, au mois de février. Ils sont au Brésil au mois d'octobre. Ils sont en France, à Lyon, sous les arbres du parc de la Tête d'Or. Vous avez toutes les initiatives, d'ailleurs, citoyennes qui s'y retrouvent. Je pense, par exemple, au Pacte Civique, qui est une belle initiative également en France. Et toutes ces initiatives, elles vont travailler sur les questions fondamentales de l'humanité, de la démocratie, mais en faisant progresser en même temps cette qualité d'écoute et d'intelligence sensible.
Vous avez remarqué qu'on a des coachs en tout et n'importe quoi, je veux dire, aujourd'hui, ça c'est une profession formidable, pour être toujours plus performant, plus beau, plus compétitif. Bon, il nous faudrait un peu des coachs en humanité, je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire à un jeune qui nous écoute? Pierre Radan, d'ailleurs, il avait commencé ici dans cette émission il y a 4-5 ans, en disant à des jeunes, écoutez, de toute façon, il faut aimer ce siècle. Vous êtes dans ce 21e siècle, de toute façon, il faut l'aimer. Vous ne vivrez pas au 22e, vous ne vivrez pas au 19e, ni au 20e. Il faut aimer ce siècle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, à des jeunes qui nous écoutent?
Ben, vous savez, parmi les initiatives citoyennes qui sont actuellement prises et qui sont passionnantes, il y a celle des villes en transition. Alors, elles sont parties de la question du pétrole, mais il n'y a pas que par rapport au pétrole où des transitions sont nécessaires. La caractéristique de ces initiatives, que par exemple on voit fortement repris en France par le mouvement des Colibris, c'est de partir d'un imaginaire positif. Comment imaginer notre ville dans 20 ans, dans 30 ans, etc. Et donc, ce désir d'imaginaire positif, c'est justement celui aussi d'un désir d'humanité. Au fond, nous sommes sur une planète miracle, nous sommes dans un univers miracle, oui, parce que maintenant, si on écoute les nouveaux physiciens et sur la pluralité d'univers, notre univers lui-même est miracle, et les humains eux-mêmes sont des êtres miracles. Comment on arrête de gaspiller ces êtres extraordinaires, comment on arrête de gaspiller les Mozart qu'on assassine, pour reprendre l'expression de Saint-Exupéry, eh bien moi je dirais à un jeune, soyez la génération qui arrête d'assassiner les Mozart.
Merci beaucoup Patrick Vivray. Un autre ouvrage, hein, de la convivialité avec Alain Caillet, Marc Imbert et Serge Latouche aux éditions La Découverte. Comment vivre en temps de crise avec Edgar Morin aux éditions Bayard. On peut bien sûr retrouver votre site en ce qui vous concerne, Gilles Van Der Potten, donc avec Reporter d'Espoir. Cet ouvrage, ce dialogue, Stéphane Hessel et vous, engagez-vous aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup. Bernard Catla, Ce que veulent les Français aux éditions Erol. Merci à Sophie Moreno, à Patrick Henry, à Stéphane Combe, à Valérie Ayestaraï, à Patrick Deschamps, à Albert Houck, à Jean-Baptiste Audibert, à Anne Gouzon qui a nourri les sites de CO2. Vous verrez, il y en a plein. Et on se retrouve la semaine prochaine. Où est-ce que je vous emmène? Tiens, bah, tenez, à Montpellier, on y va.